Et on va commencer à lire le passage. La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus de la dynastie des Mèdes sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin. Dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. On va s'arrêter là pour l'instant. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ce texte, ce passage dans Daniel, pour cette prière et pour la réponse que tu lui as donnée avec cette prophétie des 70 semaines. Seigneur, aide-nous à comprendre et à saisir toute la portée, toute la signification que cette prophétie a, tout le poids que cette prophétie donne à ta parole, Seigneur. On prie aussi pour ceux qui sont encore en route, que tu les protèges et que tu les amènes ici. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur, et aide-nous à comprendre ta parole. Ton nom, nous prions ces choses, amen. Donc, on se trouve la première année du roi Darius. Donc, Daniel vient de voir chuter Belshazzar et le royaume de Babylone avec. Et ça fait réfléchir Daniel par rapport à la situation de la nation d'Israël. Et peut-être que dans son cœur, il y avait un espoir. Il s'est dit, il y a Babylone qui tombe. Il y a un autre roi qui vient, peut-être que c'est enfin le jour qui arrive, on va peut-être pouvoir retourner à Jérusalem. Et on voit qu'il va s'appuyer sur la parole de Dieu et sur les prophéties que Dieu avait données à Jérémie pour croire et pour espérer que le temps dont Dieu avait parlé arrive. On avait vu un autre épisode, la première année du règne de Darius. C'était quoi qui s'était passé la première année du règne de Darius, pour ceux qui se souviennent? A priori, c'est ce qui s'est passé au chapitre 6 avec l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions. Et donc, ça nous donne un petit peu un relief juste de mentionner ça, parce que on voit ici que Daniel va prier et va chercher la face de Dieu. Et c'est bon de se rappeler que les prières, ces prières pour la nation d'Israël et pour que Dieu ramène le peuple à Jérusalem, ont coûté très cher à Daniel. Et c'est des prières et des situations qui ont aussi causé cet épisode avec Daniel dans la fosse aux lions. Donc, en plus du fait que Daniel se met dans une situation où il recherche Dieu avec des prières et des supplications, en jeûnant et en se couvrant d'un sac avec des cendres, en plus de ça, il y a une opposition extérieure de la part du royaume et du roi autour de cette même période qui va lui faire encourir des risques plus grands que simplement des désagréments personnels ou le besoin de prendre du temps. Et on va en reparler après, mais ça, vraiment, Daniel avait un cœur à cœur de prier Dieu en accord avec sa parole et pour lui demander d'accomplir ses promesses malgré tout ce qui s'y opposait. Et donc on voit que Daniel, il est en train de lire la Bible et il dit, verset 2, « Je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. » Et donc c'est intéressant parce qu'on a l'impression que Daniel est dans la même situation que nous. Il est en train de lire des prophéties, en train de lire la Bible, et il est en train d'essayer de comprendre la signification des passages. Et donc il voit dans le prophète Jérémie que Dieu avait parlé d'une période de 70 ans, dont on a déjà parlé dans le cours, mais on peut s'y tourner si vous voulez dans Jérémie. Il y a deux passages qui mentionnent cette période de 70 ans dans Jérémie 25, versets 11 à 13. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. Je ferai venir sur ce pays tout ce que j'ai annoncé sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. » Donc ça, c'est Jérémie 25, versets 11 à 13. Et ensuite, il y a Jérémie 29, verset 10, qui dit « En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. » En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Remettre ce verset 11 dans le contexte est bon parce que c'est un verset qu'on utilise très souvent pour appliquer à notre situation et au fait que Dieu, c'est un Dieu qui a des bons plans pour nous et qui a un projet pour notre vie, etc. etc. Et c'est bon de se rappeler que c'était un passage qui était dans un contexte. Et que Daniel, sans doute, quand il prie, il est en train de penser à ça, de dire « Jérémie a dit, tu es un Dieu avec de bons plans, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est intéressant aussi de se dire que Daniel, il y a 2500 ans, priait et espérait et se réconforter avec les mêmes paroles de Dieu que nous, on peut le faire aujourd'hui. C'est assez fou de se dire ça. Ces mêmes versets que des gens peuvent nous écrire sur une petite carte pour nous encourager. Il y avait Daniel aussi qui se les lisait, qui se les relisait. Exactement les mêmes paroles. Hein. Quand il dit, verset 2 dans Daniel 9, qu'il parle de ces 70 ans dont parlait Jérémie, ces deux passages dans Jérémie, hein, c'est les mêmes paroles, hein, c'est pas un autre texte. Et donc, Daniel, en voyant ses 70 ans, voyant la durée de temps pendant laquelle il se trouvait déjà à Babylone, il se dit, bon ben, le temps va commencer à arriver là, ça va faire 70 ans. Alors on pense qu'il avait, par rapport à la date où on estime que Daniel avait été déporté vers Babylone, qu'il restait peut-être 3-4 ans pour arriver à une période de 70 ans. Mais en tout cas, Daniel savait que Dieu allait agir au terme de ses 70 ans comme il avait promis. Ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il prend le temps et la peine de prier alors ? Parce qu'il prend du temps là et dit, en quelque sorte, il dit on a péché, c'est vrai, tu nous as punis comme tu l'avais dit, et maintenant il prie pour la restauration, il lui demande dans ta compassion, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu, en effet ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Pourquoi est-ce qu'il prend du temps pour prier alors que, a priori, Dieu a dit au bout de 70 ans, je vais vous ramener, quoi.
Parce qu'il y a la fin du chapitre 29, verset 12, où vous m'invoquerez, décéderez et je vous exaucerai. Et toute la suite est une promesse de retour. C'est la fin du chapitre 29.
Mmh. Mmh. Oui.
Oui, on ne prie pas pour Dieu seulement plus pour le résultat, il y a aussi l'adoration, la communication du quotidien.
Mm-hmm. Bah, disons que ici il y a un principe qui apparaît plusieurs fois dans la Bible et qui est intéressant et qui est aussi important à comprendre dans la mesure où on doit donner de l'importance à comprendre la parole de Dieu et ses promesses. C'est que Dieu, quand il donne des promesses, c'est pas pour nous dire bon ben c'est plus la peine de prier pour ça, c'est bon, mais il veut nous inclure et il y a une partie dans l'action de Dieu et dans sa manière d'amener les choses dans l'histoire de l'homme et dans nos vies qu'on peut pas comprendre très clairement, où il y a une partie où c'est Dieu qui agit et où il a son plan, et une partie où nous, on a notre responsabilité et on a nos actions à poursuivre. Et ici, dans l'histoire, Dieu avait dit, il avait tout annoncé, là, le plan qu'il avait pour Israël, qu'ils avaient péché, qu'il allait les punir avec Babylone, ils seraient déportés 70 ans, après ils reviendraient, que Babylone tomberait, enfin tout était marqué, mais en même temps, il y a toutes les personnes dans l'histoire qui sont utilisés et qui ont leur responsabilité et leur rôle dans l'action. Jérémie a prophétisé, Daniel a prié en accord avec la parole, prié à les hommes, les différents hommes des différents états qui ont agi et qui ont, pour leur propre raison, fait ce qu'ils ont fait. Et donc il y a cette double partie où nous aussi on a notre rôle à jouer, mais il y a aussi un côté où les promesses de Dieu, la parole de Dieu, ce qu'il annonce dans sa parole, ça doit nous servir dans certains aspects de leitmotiv pour nos prières. Quand on prie en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec sa parole, c'est une prière qui a, quand vous dites à Dieu voilà tes promesses, alors après on lui dit ben, sois Dieu et continue, j'espère en toi pour que tu continues de faire et d'accomplir ce que tu as dit que tu ferais. C'est une prière qui est puissante parce que c'est une prière qui est en accord avec la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est juste de pas tomber dans une sorte de passivité où on dit tout est écrit et c'est pas la peine de prier pour les choses. Ça m'a marqué parce qu'on se dit, bon, bah, Daniel, il lit dans le prophète Jérémie, il peut lire 70 ans, ça arrive, on va rentrer, quoi. Et pourtant, il prend le temps et il prie et il cherche Dieu et lui dit, accomplis ces choses, pardonne-nous, restaure-nous. Et donc, les promesses de Dieu doivent nous inviter à prier et doivent nous inviter à le rechercher et à lui demander qu'il accomplisse ses promesses.
Le sujet de quand Jésus nous dit de prier dans notre Père,
disant que ta volonté soit faite. C'est un peu la même chose, la volonté de Dieu, s'il est Dieu, elle se fera quoi qu'on fasse, même si on s'y oppose. Et donc, c'est cette association à l'action de Dieu qui est un mystère, mais en même temps, comme tu dis, qui nous fortifie dans notre attente, dans notre confiance en Dieu et qui plaît à Dieu.
Et il y a aussi un thème qui revient, qui est difficile à comprendre aussi, que certains voient dans le Nouveau Testament. C'est une notion qui, par exemple, dans 2 Pierre 3, 12, où il est dit « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu ». Et il y a une impression, ou presque une idée, qu'en cherchant la volonté de Dieu et en cherchant à lui plaire et en lui priant et en lui demandant d'accomplir sa promesse, on contribue à presque à accélérer l'arrivée de ces choses. Et alors c'est un peu, on se dit, mais c'est mystérieux, mais c'est quelque chose qui semble être un petit peu sous-jacent dans ces choses-là. Une autre raison pour laquelle Daniel pouvait éventuellement prier, c'est qu'on avait vu qu'il y avait eu 3 vagues de déportation à partir de Jérusalem. Il y avait une première attaque de Jérusalem où Daniel et d'autres, un petit peu de l'élite de la nation, avaient été enlevés. Alors, ils estiment à 605 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y avait 597 avant Jésus-Christ, une deuxième attaque de Jérusalem où le trésor est enlevé et encore une partie du peuple est enlevée. Et puis, il y a la date de 587 avant Jésus-Christ où Jérusalem tombe vraiment et où la nation est exilée, où il y a une vraie destruction. Et donc, entre la première et la dernière de ces trois dates, il y a quand même 18 ans de différence. Et donc Daniel, peut-être, il se disait, on ne sait pas, c'est 70 ans, on ne sait pas quand Dieu a considéré qu'elles ont commencé. Il était un petit peu dans le même cas que nous face à certaines prophéties où on essaye de calquer les choses sur ce qu'on voit dans l'histoire. Mais peut-être que Daniel se disait, si Dieu prend la première date pour... comme le début de ses 70 ans, ça va peut-être nous épargner 18 ans de plus de captivité. En tout cas, on voit que Daniel, encore une fois, c'était un homme qui accordait vraiment énormément d'importance à la prière, mais aussi à la parole de Dieu. On voit qu'il étudiait la parole, qu'il lisait les livres qui étaient à sa disposition. C'était quoi le rôle de Daniel? C'était quoi son boulot? Rappelez-vous ce que c'était comment vous décririez son job? C'est pas une question piège. Hein. Conseiller, quelqu'un d'assez haut dans la hiérarchie de la nation. Si vous pensez aux gens qui sont hauts dans la hiérarchie des nations de la France, par exemple, vous pensez à leur boulot, vous pensez à leur emploi du temps. Ils ont beaucoup de temps libre ou pas?
Non, pas trop.
Quelqu'un qui est haut dans la hiérarchie, d'une nation, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps dans son emploi du temps. Et quelqu'un comme Daniel, qui prend du temps pour prier 3 fois par jour, quelqu'un qui prend du temps comme Daniel pour prendre du temps pour jeûner, pour se couvrir d'un sac et de cendres, c'est quelqu'un qui doit nous inspirer, nous. Avec nos emplois du temps qui sont, je pense, tellement plus légers que nous aussi, nous devons prendre du temps pour prier. Et donc, regardons comment Daniel se prépare ici pour prier. Verset 3, « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant. » Ça montre sa détermination. Il essaie d'éliminer les distractions, de se tourner vers Dieu. On a le sentiment ici qu'il veut accomplir quelque chose. C'est presque comme s'il savait que Dieu ne pourrait pas lui refuser parce qu'il priait en accord avec ses promesses et avec sa parole. Il dit, voilà Dieu, tu as dit 70 ans, les 70 ans sont là, vas-y Dieu quoi, c'est allez. Enfin, il y a un sentiment, tout en gardant le respect qui est dû à Dieu, mais il vient à Dieu avec une entière confiance que ce qu'il demande, même s'il n'a pas compris exactement les échéances ou les détails, mais il sait que Dieu a annoncé qu'il allait faire quelque chose, et donc il vient en, avec une confiance devant Dieu en lui demandant. Il jeûne, ça c'est quelque chose que nous pouvons, que nous connaissons pour certains d'entre nous, le sac et les cendres, un peu moins. C'était des symboles d'humiliation et d'abaissement dans une tristesse, une sorte de prise de conscience. Et c'est quelque chose qui nous montre que les conditions physiques dans lesquelles nous nous mettons pour prier sont importantes. Que c'est dans nos églises, à notre époque, on aime souvent dire qu'on peut prier Dieu tout le temps, qu'on peut toujours juste fermer les yeux, et c'est dans notre cœur, et que c'est pas les circonstances. On n'est pas obligé d'être à genoux dans une église catholique avec des bougies qui... Et c'est vrai, mais en même temps, nos conditions et nos circonstances physiques et la manière dont on se place, la manière, peut-être l'importance qu'on donne à nos prières et le temps et la séparation, le fait de réduire les distractions, c'est quelque chose qui est important pour nous quand on prie. Et peut-être que beaucoup de nos prières seraient différentes si nous nous tenions différemment ou si nous étions dans d'autres circonstances physiques. Juste une chose importante peut-être de réfléchir chacun pour soi, c'est pas qu'on doive, il y a un rituel à suivre, mais chacun doit donner de l'importance à la prière, et ça passe aussi par l'importance et un petit peu l'isolation, parce que ça nous aide à nous concentrer et à nous centrer sur Dieu. Regardons sa prière. Verset 4. « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Là, il commence en reconnaissant qui Dieu est, qu'il est grand et redoutable, qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, que c'est quelqu'un qui garde son alliance, qui garde ses promesses et qui traite avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Il reconnaît implicitement que le problème que subit Israël, c'est pas quelque chose qui est dû à Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. On va le voir dans la suite, mais c'est une prière qui est marquée par deux choses. Il a une très juste compréhension de la situation. Il est très lucide sur ce qui se passe et il comprend à qui revient la faute et qui a les rôles. Il comprend la vérité de la chose, mais aussi par son sérieux et par la gravité de sa demande et la manière dont il l'exprime. Et il continue en disant « Nous avons péché, nous avons agi en homme perverti, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. » Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Qu'est-ce qui vous frappe dans les mots ici ?
Nous.
Parce que Daniel, c'est pas quelqu'un de tellement rebelle.
Toute la prière, c'est du nous. C'est jamais le peuple, c'est jamais une distanciation. Il s'inclut toujours dans le constat de péché et d'insuffisance vis-à-vis de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important pour nous de considérer. Une des illustrations de ce genre de phénomène et de ce genre d'idée qui est très typique et classique, c'est par rapport à des événements sportifs. Quand l'équipe gagne... C'est toujours nous. On a gagné, on est champion, on est ceci. Quand l'équipe perd, c'est ils quoi. Ils ont mal joué, ils ont été mauvais, ils ont perdu. Et on aime bien distancier et ça montre notre facilité aussi à juger les gens, les autres, à pointer du doigt les autres et à pas nous considérer nous-mêmes. Mais c'est aussi quelque chose qui révèle un fait qui est qu'on pense peut-être que nous, on a réussi à quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu par exemple dans Galates avec Jordan, c'est que le plus beau d'entre nous, Daniel, qu'on voit, qui, pour l'impression qu'on a dans ces récits, on a l'impression qu'il est c'est un as, quoi. Il y a pas de choses qui ressortent. On se dit là, il a commis d'erreur, mais vis-à-vis de Dieu, tout ce temps que nous sommes, on n'est pas à la hauteur. Et dans des situations comme ça, de prier, de dire « il », c'est en quelque sorte de dire « moi j'y arrive, mais eux, ils n'y arrivent pas ». Et c'est quelque chose qui... C'est toujours ces petites nuances, ces petites choses qui révèlent des compréhensions et des choses qu'on pense plus profondément. Et ça peut être le cas notamment dans l'Église, par exemple, quand on... Peut-être il y a des comportements, des problèmes au niveau de l'Église où on est prompt à prier. Peut-être que nous, on n'y est pas mélangé, mais on est prompt à prier qu'eux, ils arrêtent de pas faire les choses comme il faut. Ou peut-être même au niveau de l'Église, au sens plus large. Peut-être qu'il y a des péchés peut-être que chaque mouvement d'église, d'une certaine manière, c'est une sorte de fierté, de manque d'humilité face à Dieu, en se disant nous on a bien compris la doctrine face à Dieu, et Dieu s'il te plaît aide tous les autres à comprendre qu'ils sont un petit peu dans l'erreur sur ces points et à s'unir. Ou est-ce qu'on dit nous on est tous autant que nous sommes dans l'église, on est dans l'erreur peut-être, et il y a des choses qu'on comprend pas. Dieu, pardonne-nous et unis ton Église. En tout cas, on voit que Daniel, il s'inclut complètement et il confesse ses péchés comme étant ses péchés, autant que ceux du reste de la nation. Verset 7, il dit « Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte. » Et dans sa confession, il montre aussi un autre principe, et autre chose qui, souvent pour nous et dans notre société, est un symptôme d'un rejet plus profond de Dieu. C'est une idée qu'on recherche toujours des excuses. On n'assume jamais pleinement les choses. Il a tué quelqu'un parce que son père a été mauvais avec lui. J'étais en retard parce que les conducteurs de bus faisaient grève. Et la psychologie moderne, c'est un petit peu ça tourné en science, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à expliquer pourquoi la personne n'est pas forcément c'est pas de sa faute, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et ce que Daniel nous montre, c'est que ton patron a tort, mais toi aussi tu as tort dans un certain aspect. Et donc Daniel se voile pas la face. Il n'est pas en train de dire « Dieu, on a fait ça parce que pardonne-nous, on ne savait pas, on avait mal compris. Pardonne-nous, toutes les excuses qu'on arrive à trouver, toutes les excuses que moi je trouve quand je ne fais pas les choses que je sais que je devrais faire. Et quand on y réfléchit, quand j'y réfléchis, je suis obligé de me dire « mais c'est... » Enfin, il y a tellement de choses dans ma vie, Dieu, où je suis en tort, et c'est ma faute, et c'est tout. Oui.
Moi, je constate en effet que c'est une attitude qui est assez naturelle au fait chez l'homme depuis Adam et Ève. Parce qu'il m'avait dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui a fait ça, quoi.
Et souvent c'est très difficile, mais souvent c'est aussi quelque chose qui, dans bien des situations, permet de dans des situations de conflit avec les gens, notamment dans beaucoup des choses qu'on a vues qui peuvent être classées comme étant des œuvres de la chair, quand on a regardé dans Galates, dans tout ce qui était la partie des péchés envers les autres hommes, tout ce qui est division, jalousie, querelle, envie, discorde. Souvent, le fait d'assumer sa faute et ce qu'on a fait de mal, c'est souvent ce qui permet de diffuser ces choses et de résoudre ces situations. Et c'est comme si Dieu, quand on, quand on, à partir du moment où on arrive, où on vient à lui pleinement confessant notre péché, c'est à partir de ce moment-là qu'il peut changer après la situation qui est le résultat de cette faute. Et c'est aussi la marque du travail du Saint-Esprit dans nos vies. Quand on arrive à cette reconnaissance et à cette confession des péchés, c'est aussi quelque chose qui ne vient pas naturellement. C'est quelque chose qui montre aussi l'effet du Saint-Esprit dans nos vies. Daniel aurait pu se plaindre, hein. Je dirais, Daniel, il avait rien fait. Il aurait pu dire, Dieu, un peu à l'image de Moïse, j'en ai marre de ce peuple. Moi, je suis là comme ça fait 70 ans que je fais tout bien. Et ces guignols, ils continuent de faire n'importe quoi, de rien écouter, de tout faire de travers. Tu veux pas me laisser entrer, moi, à Jérusalem, eux, tu t'en occupes, mais... Franchement, enfin moi, ce genre de réaction que moi j'aurais pu avoir à la place de Daniel, quoi. Ça aurait pas été si on aurait lu ça, on aurait dit ouais, d'accord, quoi, ouais. Dans le texte, ça nous choque plus qu'ils disent nous que le fait qu'ils disent eux, quoi. Je veux dire, quand on lit ça, nous ne pouvons rougir que de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Là, il fait partie de ceux qui sont loin. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs et ses prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Là, il dit en plus de dire « Dieu, tu es juste, nous avons péché », il dit tout ce qui arrive, c'est en plus, c'est l'accomplissement de tout ce que tu nous avais annoncé. Non seulement il dit nous, c'est complètement notre faute, mais il dit tu nous avais prévenu, et il justifie en quelque sorte l'action. Il dit on n'a rien à redire sur ce que tu as fait. C'est complètement justifié, c'est complètement normal. Ce que tu as fait, c'est 100% depuis les premiers temps, depuis dans le Lévitique, le Deutéronome, il avait déjà annoncé ces choses. Il y a tellement de passages que c'est on ne peut pas en faire le tri, quoi. C'est verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. Là, c'est un constat. Il dit même quand tous ces malheurs nous ont frappés, on n'a même pas eu le bon sens. On avait ta loi, on avait ta parole. Tu nous as dit, si on pêche, ça va arriver, c'est arrivé. Et on n'a même pas eu le bon sens de se dire, prions Dieu pour qu'il nous pardonne. Ils étaient tellement éloignés que même au cœur du malheur, ils n'ont même pas eu le bon sens de... Souvent on dit, il ne faut pas juste prier Dieu dans les situations difficiles. On dit, il faut penser aussi à prier Dieu tout le temps, même quand ça va bien, etc. Là, même dans les temps difficiles, ils n'ont même pas eu l'idée d'aller prier Dieu. Tellement ils étaient loin et détournés de Dieu. C'est vraiment ces prophéties que Jésus reprend, où il parle de ce cœur... de ce cœur dur de ce peuple que Dieu va rendre comme aveugle, comme complètement insensible. C'est... On se dit, dans l'Ancien Testament, il y a plein d'épisodes où ils se détournent, ça va mal, Dieu les punit, hop, ils font, ah oui, c'est vrai, vite, on prie Dieu, on revient à Dieu et ça va mieux. Et là, ils étaient arrivés à un tel point que même quand Dieu les a frappés, il n'y a plus de retour. 14. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. mais nous n'avons pas écouté sa voix. Là, on a un contraste qui est vraiment fou avec, les contestations que le monde peut avoir concernant l'existence ou non d'un Dieu. S'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheur? Il ne peut pas être un Dieu d'amour. Même nous, dans nos vies, on peut par moments se dire, mais pourquoi est-ce que ça arrive, Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Se plaindre, se... Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. C'est très difficile à accepter. C'est ce dont parlait... je ne sais pas si vous vous souvenez, Jordan, il parlait un moment, il disait la théologie, c'est important parce qu'il y a des... C'est des petites vérités. Souvent, c'est des trucs qu'on a l'impression que c'est des théories compliquées. Mais c'est des vérités simples qui définissent beaucoup de choses dans notre vie avec Dieu et notre comportement vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est un des points de base de la théologie. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Quand quelque chose se passe, Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. On n'a jamais à remettre en question ce qui se passe. C'est difficile à... C'est trop grand pour notre petit cerveau, mais c'est... Il n'y a rien à redire, quoi. Nous sommes en tort, toi tu es juste, il n'y a rien à redire. Point barre. C'est difficile, mais ça doit aussi être source d'une... pour nous, avec d'autres promesses et avec les autres choses que Dieu nous a promis, c'est que ces choses doivent nous apporter une paix et une joie, parce que nous savons que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, mais aussi qu'il nous a rachetés par Jésus. Et que nous avons une position de juste et de racheté, de quelqu'un de réconcilié avec un Dieu qui est juste, qui est souverain. Verset 15. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Daniel demande à Dieu de pardonner, de restaurer Jérusalem, de tourner sa face, de montrer sa bienveillance envers le peuple. Et là on a encore un... On voit la demande de Daniel. La motivation, c'est pas Dieu, moi j'ai été pas mal, tu veux pas, parce que moi et mes amis là, on a bien agi envers toi, faire grâce au reste de la nation. Non, il dit, on n'a rien fait pour mériter. Dieu, fais-le pour toi, fais-le pour ta gloire, fais-le parce que c'est en accord avec ton caractère, fais-le parce que tu es plein de compassion, fais-le, Seigneur, pour ta gloire, pour que toi tu reçoives la gloire, parce que pour les gens qui voient ce qui se passe, les gens te rendent gloire et disent, c'est toi qui as fait ça. Il est désintéressé là, il n'est pas en train de dire... Il n'y a pas un sentiment de Dieu fait ça et puis moi je serais bien vu aussi comme celui qui t'a demandé de le faire, ou il y a rien de tout ça qui transparaît dans la prière de Daniel. Il base sa demande sur la bonté et le caractère de Dieu et pas sur ses propres mérites. c'est fou parce que c'est tellement en accord. On est dans l'Ancien Testament, mais c'est tellement en accord avec le message du Nouveau Testament. C'est tellement en accord avec ce qu'on a vu dans Galates. Sa prière montre toute sa confiance et sa dépendance en Dieu pour ce qu'il demande. Et en même temps, c'est en accord avec les promesses de Dieu et avec l'espérance de ce que Dieu a promis. Et c'est... je trouve que ce passage-là, après avoir vu Galates, ça ressort vraiment, on se dit, mais c'est vraiment les mêmes idées ici. Et on a cette fin, on a vraiment l'impression que Daniel est à la lutte avec Dieu. Il est là, il est... Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis sans tarder. Est-ce qu'il y a des questions? Non?
Je ne sais pas, je suis en train de penser Jérusalem, ta montagne sainte. Je suis en train de me dire pourquoi Dieu aime tellement Jérusalem. Est-ce
qu'il y a des questions?
Pourquoi Dieu aime tant Jérusalem? Parce que Dieu l'a décidé. Et parce que l'amour de Dieu ne résulte pas du mérite de quelqu'un ou de quelque chose, mais de la décision de Dieu.
C'est le reflet de son amour pour son peuple.
C'est symbolique de son amour, oui, pour la nation d'Israël.
C'est spécial par Jérusalem.
Ben disons que c'est aussi dû à l'histoire et à la décision de la manière d'agir de Dieu, où il a. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le peuple d'Israël? Il aurait pu. En Corse ou d'autres, mais je veux dire, à un moment Dieu a dit je choisis les Israélites et Jérusalem et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, et il y a une relation spéciale, et c'est un lieu qui pour l'homme devient symbolique et représentatif de Dieu, et donc il y a un vis-à-vis des nations alentours, surtout à cette époque, on voit dans ce que dit Daniel, c'est aussi une question de comment il se montre vis-à-vis des nations alentours, et c'est un petit peu comme si c'est sa représentation, c'est sa manière de se montrer à l'homme sur terre, c'est en passant par Jérusalem et par le peuple qui est associé. Voilà. Bon, pause, 10 minutes, pas plus.